est absolument essentiel.
Oui, absolument.
Absolument pas. Absolument.
Essentiel. Une émission présentée par Thomas Lacombe.
Le contact humain est le véhicule essentiel de la démocratie. Jacques Chirac. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Absolument Essentiel, le 17e numéro exactement, et cette semaine, mon invité est un ancien député maire, un ancien ministre de l'Intérieur, ancien président de l'Assemblée nationale et ancien président du Conseil constitutionnel. Mon invité cette semaine, c'est Jean-Louis Debré. Au terme de ses 9 ans de mandat à la tête du Conseil constitutionnel, il a quitté son poste et son devoir de réserve. Jean-Louis Debré m'a reçu dans un bureau de l'Assemblée nationale mis à sa disposition alors qu'il consultait des archives en vue de la rédaction d'un prochain livre, un dictionnaire amoureux de la République, petit scoop transistor. En attendant, c'est pour un autre livre qu'il m'a reçu, un livre publié aux éditions Robert Laffont, « Ce que je ne pouvais pas dire », c'est son titre. Et ce qu'il peut nous dire maintenant est absolument essentiel. Ah oui, et si vous avez l'impression d'entendre parfois, lors de cette interview, en fond sonore, l'idole des jeunes, vous savez, cette chanson de Johnny Hallyday, eh bien, vous ne rêvez pas, c'est juste la sonnerie de portable de Jean-Louis Debré, et si vous voulez tout savoir, sa coque de portable est tricolore. Détail qui est absolument essentiel, bien sûr. Rencontre. Bonjour Jean-Louis Debré.
Bonjour.
Depuis le 5 mars 2016, vous n'êtes plus président du Conseil constitutionnel. Pendant 9 ans, écrivez-vous, je me suis abstenu de toute déclaration publique comme l'imposaient mes fonctions. Mais je n'en ai pas moins observé ce qui se passait autour de moi en réservant à ce journal mes réactions, mes humeurs, souvent mes mauvaises humeurs. Votre livre, « Ce que je ne pouvais pas dire », est intéressant à bien des égards. Et le premier, c'est certainement qu'il nous fait connaître une institution importante pour la République, le Conseil constitutionnel, que vous avez présidé, que vous avez fait évoluer.
Oui.
Et un des principaux changements, c'est celui qui découle de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, l'instauration des QPC, les questions prioritaires de constitutionnalité. En quoi ça consiste exactement?
Oui, c'est une révolution. Une révolution juridique. Un petit rappel. En France, à la suite de la Révolution française, le pouvoir de faire la loi a été arraché au roi pour être remis au peuple. Et la loi expression de la volonté générale ne pouvait être modifiée, corrigée, annulée que par les parlementaires. C'est la conception française de la loi. Avec la Constitution de 1958, on a vu arriver un contrôle de constitutionnalité. Et puis, l'honneur était sauf, l'honneur de la loi était sauf, puisque le Conseil n'intervenait qu'à la demande des politiques et avant que la loi ne soit promulguée. Une fois que la loi est promulguée, elle est la loi et personne ne peut la modifier autre que le législateur. Avec la question prioritaire de constitutionnalité, ce dogme va tomber, car désormais, les justiciables vont pouvoir, suivant une certaine procédure, saisir le Conseil constitutionnel, même de lois anciennes, pour qu'il vérifie si ces lois ne portent pas atteinte aux droits et aux libertés qui sont constitutionnellement garantis. Et voilà la nouvelle révolution. La loi peut être corrigée, peut être annulée par le juge constitutionnel, même des lois anciennes.
Alors je vous ai posé la question, parce que j'ai lu dans votre livre que vous aviez l'habitude, et vous aimiez ça, aller faire des conférences dans des grandes écoles, dans des facs de droit, pour expliquer justement le fonctionnement du Conseil constitutionnel. Est-ce que vous trouvez que, de manière générale, les Français, peut-être les jeunes, a fortiori, connaissent mal leurs institutions?
Ils ne connaissent pas du tout. ne connaissent pas du tout. Moi, j'ai pris un très grand plaisir pendant 9 ans, pratiquement tous les vendredis, d'aller parler des institutions de la République, notamment du Conseil constitutionnel, aux étudiants des facultés de droit, des instituts d'études politiques ou des barreaux. Je crois que c'est par cette pédagogie permanente qu'on peut faire aimer et en tout cas comprendre nos institutions.
Alors, puisqu'on parle de fac de droit et que vous êtes aussi écrivain, je vais vous demander un petit peu de politique fiction. Si vous aviez été étudiant à la faculté d'Angoulême et que vous aviez dû passer votre examen de droit constitutionnel de première année de licence, lequel de ces deux sujets auriez-vous choisi ? Sujet 1, le Conseil constitutionnel, ou sujet 2, à quoi sert Hollande ?
Alors, c'est très difficile pour moi pour vous répondre, parce que, naturellement, le Conseil constitutionnel est un sujet qui m'interpelle et je pense qu'il était intéressant de montrer comment une institution politique est devenue une institution juridique. Mais à quoi sert Hollande ?
Oui.
Le sujet m'amuse parce qu'en réalité, il y a de très nombreuses années, la question avait été à quoi sert Michel Debré ?
Oui, c'était une question posée dans un article par le professeur de droit Maurice Duverger.
Oui, Maurice Duverger, qui est grand professeur de droit, qui s'est trompé sur tout, puisque c'est lui qui, quelques temps après l'adoption de la Constitution de la Ve République, a écrit un livre en disant « Vers la Sixième République », pensant que les institutions voulues par le général de Gaulle et écrites par mon père ne survivraient pas à de Gaulle. Donc il s'est trompé. Mais c'est une vraie question, au-delà du côté provocateur. À quoi sert le gouvernement, à quoi sert le président de la République dans un système où l'Europe est en train de se substituer aux institutions françaises? Par exemple, plus de 60% des lois sont des lois d'origine européenne. À quoi sert le Parlement français? C'est une vraie interrogation. Quand vous avez un président de la République, quel qu'il soit, face à la tyrannie de l'instant, face à la puissance des réseaux sociaux, qui ne peut plus rien faire, parce qu'immédiatement on mobilise des gens négativement, jamais pour quelque chose. Comment, à quoi sert un président de la République qui se heurte en permanence à la tyrannie de l'instantané, de l'instant? Ça, ce sont des vraies questions. Et ça débouche sur une autre question, comment aujourd'hui gouverner ?
Comment aujourd'hui gouverner ? Autre question, si on reprend le premier sujet, le Conseil constitutionnel, avec les QPC, est-ce que la problématique n'aurait pas pu aussi être pour traiter ce sujet ? Est-ce qu'on n'est pas en face du gouvernement des juges ?
Non, 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 et non, et non. Parce que le gouvernement des juges, c'est quand les juges peuvent se saisir eux-mêmes. L'autosaisine, or nous n'avons pas dans le système, et grave, heureusement, d'autosaisine. Nous sommes saisis des lois avant promulgation par le président de la République, le Premier ministre, les présidents de l'Assemblée, ou 60 députés, 60 sénateurs, et après, par le justiciable, qui a l'occasion d'un procès civil, commercial, pénal, administratif, quand on lui oppose une loi. Donc nous n'avons pas d'autosaisine. Enfin, la limite et la procédure de la saisine du Conseil est fixé par la Constitution, par le peuple constituant. Donc il n'y a pas d'auto-saisine. Il y a un vrai problème. Si vous me permettez, deux chiffres.
Je vous en prie.
Il y a 10 ans, le nombre de caractères pour transcrire dans le journal officiel les lois de la République, c'était de l'ordre de 1 700 000 caractères. 10 ans plus tard, 3 800 000 caractères. Plus la loi est bavarde, plus la loi est longue, plus elle risque d'être contradictoire, et on a perdu la notion en France de la loi, qui est de là de fixer des normes. Et donc, si le Conseil constitutionnel, qui les 5 dernières années que j'ai présidé avec la QPC, a rendu plus de décisions qu'il n'en avait rendu en un demi-siècle, c'est aussi un dérèglement de la notion de loi. Et aujourd'hui, il n'est pas Il n'est pas absurde de voir des lois de 150, 200 articles. Et il y a une loi où un article faisait 5 ou 6 pages. Là où il n'y a pas de rigueur juridique et législative, alors vous laissez aux juges, et notamment aux juges constitutionnels, une grande possibilité d'intervention.
Et mais ce n'est pas le gouvernement des juges. Cet écueil, vous l'avez souligné à maintes reprises, vous le dites dans le livre, à la fois au Premier ministre Manuel Valls, au président de la République François Hollande. Vous avez été écouté ?
Non, mais on ne peut pas être écouté.
Pourquoi ?
Pour une raison très simple. Je vais vous donner un exemple concret. Un jour, oui. Je vois dans un journal de province qu'un chien, un chien errant a mordu un enfant. J'appelle le député, que je connais bien, et je dis, tu vas quand même pas me faire une loi pour interdire aux chiens de mordre les enfants. C'est absurde. Ce qui serait intéressant, c'est de faire peut-être une loi interdisant aux enfants de mordre les chiens. Mais peu importe. Et il me dit, non, tu as raison. Mais tout a changé. Il y a un siècle, lorsqu'un chien errant mordait un enfant, ça a toujours existé, c'est très triste, il y a 4 lignes, 5 lignes dans le journal. Cette fois-ci, la télévision française, TF1, en a parlé à 13h. Du coup, c'est devenu une angoisse. Et me dit ce député, mes électeurs ou électrices viennent me voir, disant, monsieur le député, qu'est-ce que vous allez faire ? Si je réponds rien, eh bien, ce qui est normal, on ne peut rien faire. Mes électrices et électeurs ne sont pas contents, ils iront se détourneront de moi. Donc je suis forcé, et je leur ai dit, je vais renforcer la législation. Tout ça est absurde. Mais on vit dans l'absurde.
La loi, c'est devenu aussi quelque chose de médiatique.
C'est un objet. La politique aujourd'hui, peut-être plus que par le passé, du fait des réseaux sociaux, la télévision, etc., est devenue un métier du spectacle. Il faut faire un spectacle. Et j'en veux pour preuve, lorsque nous étions au Conseil constitutionnel, on a eu des lois pour lutter contre l'immigration illégale. Très bien, c'est la responsabilité du gouvernement. Mais à chaque fois, la nouvelle loi prenait comme prétexte pour la nouvelle législation que la précédente n'avait pas porté ses fruits. Mais la précédente, il n'y avait pas de décret d'application. C'est-à-dire qu'on fait, on donne l'impression, on donne le sentiment. Et on sait très bien que on ne peut rien faire.
Alors, vous parlez de votre passage au Conseil constitutionnel. Le 5 janvier 2016, c'était votre dernière cérémonie des vœux à l'Élysée en tant que président de cette institution. Et vous avez fait un bilan de votre action à sa tête. Vous avez suggéré des réformes, notamment une qui vous tient particulièrement à cœur. Vous êtes pour, Jean-Louis Debré, que les présidents de la République ne soient plus de droit des membres du Conseil constitutionnel. Pourquoi ?
Les anciens présidents de la République. Oui. Pour une raison juridique, c'est qu'avec les QPC, nous jugeons de plus en plus des lois anciennes mais relativement récentes. Or, ces anciens présidents de la République ont été ceux qui ont promulgué ces lois. Et par conséquent, vous ne pouvez pas avoir promulgué la loi et être juge constitutionnel. C'est ça l'argument juridique le plus important. Par ailleurs, quand je suis arrivé au Conseil constitutionnel, il rendait 10 décisions par an. En 1973, il en a rendu 3. C'était compatible avec l'emploi du temps d'un ancien président de la République. Quand je suis parti, on rendait 140, 150 décisions par an. J'ai institué une audience de plaidoirie. Si vous n'êtes pas à l'audience de plaidoirie, vous ne pouvez pas être à l'audience de délibéré. J'ai institué dans le règlement la possibilité de récusation, y compris d'un ancien président de la République. Tout ça montre qu'ils n'ont plus leur place au Conseil constitutionnel.
Alors, pour l'heure, les anciens présidents de la République sont toujours des membres de droit du Conseil constitutionnel. C'est le cas de Jacques Chirac, donc, mais il n'y siège plus parce que son état de santé ne le lui permet plus. Et dans votre livre, pendant ces 9 ans, vous lui avez rendu visite, on le lit, souvent, régulièrement, là où d'autres, des anciens ministres, des anciens soutiens, l'ont un peu oublié. Mais Jacques Chirac, pour vous, c'est un ami, quelqu'un qui compte. Et les passages de votre livre qui parlent de lui, ils sont tendres, ils sont sincères, parfois inquiets. Vous avez vu son état de santé se dégrader. Et dans votre livre, à la date du 2 juin 2015, il y a ces 3 phrases. Triste moment passé avec lui, il n'est pas en forme et notre entretien doit être rapidement écourté. Je me demande, en quittant son bureau de la rue de Lille, quand arrivera ce jour terrible où il ne me reconnaîtra plus. Comment va-t-il Jacques Chirac aujourd'hui?
Écoutez, il est frappé d'une maladie. Et cette maladie, je la compare à la vague au bord de la mer. La vague, elle monte, elle est parfois étale, mais elle ne recule jamais. Et donc c'est une maladie qui, petit à petit, inexorablement, lentement, le détache de nous. Alors il y a des jours meilleurs que d'autres et d'autres instants plus difficiles.
Je vous pose la question parce que dans votre livre, vous le dites, dans la rue on vous arrête, dans les salons du livre auxquels vous participez, parce que vous écrivez aussi de nombreux livres, les gens vous posent la question. Les gens ont envie de savoir comment va Jacques Chirac, parce oui. que c'est un président qui est resté avec une image de grande popularité. Comment vous l'expliquez ça aussi?
Alors, d'abord en France c'est une tradition, quand on n'est plus au pouvoir on devient populaire. Non, parce que je crois que c'est un homme qui ressemble aux autres. Et quand vous le voyez, que vous soyez favorable ou pas, sort de ce personnage une espèce de sympathie. Pourquoi ? Parce qu'il aime les gens. Il n'est pas comme ces politiques qui n'aiment qu'eux. D'ailleurs, il ne parle pas de lui. Il est assez mystérieux sur lui-même. Il est très tourné vers les autres. Et les gens le sentent confusément. Et puis sa popularité, comme toujours, vient aussi du fait qu'on idéalise le passé. C'est vrai que c'était une autre époque, peut-être moins dure, mais on a tendance à l'idéaliser. C'est un homme qui déclenche la sympathie. On peut contester sa politique, on peut contester l'action qui a été la sienne. Mais je crois qu'il restera quelques petites choses. Le fait, si vous voulez, et combien il avait raison, de refuser de s'associer aux Américains dans l'intervention en Irak. Et je me souviens de sa phrase, « On va faire des milliers de petits Ben Laden ». Deuxièmement, pour lui, c'est par le dialogue des cultures, le dialogue des civilisations, et non pas l'affrontement des cultures et des civilisations qu'on réglera les problèmes dans le monde. Et puis, je crois qu'il a eu une action importante et notable, naturellement très, très contestée, pour la défense de l'environnement. Souvenez-vous, quand il avait décidé que les compagnies d'aviation donneraient 1 € pour la reforestation dans certains pays. Quel drame en France! Quel drame en France, alors qu'on voit les ravages du changement climatique, quand il avait voté cette charte de l'environnement et qu'il l'avait adossée à la Constitution. Et combien encore aujourd'hui les gens disent « mais ce principe de précaution est absurde ». Non, le principe de précaution, il va de pair avec le principe de responsabilité. Or, nous sommes à un moment de notre monde où il faut que les acteurs économiques, politiques, sociaux comprennent la responsabilité qu'ils ont vis-à-vis de leurs concitoyens, mais vis-à-vis du monde entier.
Jacques Chirac, c'était le dernier de nos dirigeants qui avait l'étoffe d'un président?
Alors ça, c'est, vous rentrez dans, on rentre dans une... Je pense qu'aujourd'hui, nous arrivons à la fin de 2 cycles. Pour ce qui concerne la gauche, la fin du cycle mitterrandien. Et en ce qui concerne la droite, la fin du cycle gaullien-chiraco-libéral. Tout ça va de pair avec l'effondrement des idéologies, la mondialisation, mais on voit bien que tout est en train de se refermer, qu'une nouvelle génération va arriver et qu'il faut construire un nouveau cycle.
Tout est à reconstruire, on est justement à 1 an de la présidentielle. À gauche, François Hollande reporte au mois de décembre la décision concernant sa candidature, mais en l'état actuel, elle semble actée. À droite, en revanche, des primaires s'annoncent. En lisant votre livre, on comprend que vous n'êtes pas pour Nicolas Sarkozy, c'est le moins qu'on puisse dire. Je cite au hasard un de vos passages, « Il est dangereux pour la démocratie », dites-vous. Les commentateurs politiques à cause de votre livre et à cause d'un passage, ou grâce à un passage du 6 janvier 2016, vous étiquette comme un soutien potentiel d'Alain Juppé, dans lequel, effectivement, vous trouvez de nombreuses qualités, mais c'est oublié, il me semble, vous allez me dire si je me trompe, de nombreux autres passages du livre où vous louez les qualités de Bruno Le Maire, qui vous a d'ailleurs succédé il y a quelques années à la tête de la première circonscription de l'Eure. Vous ne faites plus de politique, mais si vous aviez à choisir, et vous irez certainement voter, vous êtes plutôt Le Maire ou Juppé ?
Alors, je ne réponds pas à cette question. D'abord parce que on n'est pas dans la campagne présidentielle, que j'ai toujours été extrêmement réservé sur les primaires. Il faut savoir que la constitution de la Ve République a été faite pour arracher la désignation du président de la République aux partis politiques. Pas oublier que ces partis politiques avaient mis 13 tours de scrutin pour élire René Coty, qu'ils avaient préféré des Chanel à Clémenceau, et que dès 1958, on a cassé ce système, puisque la première mouture, la première élection du président de la République s'est faite avec un collège électoral de 100 000 personnes réparties sur toute la France, pas les partis politiques. Puis il y a eu la réforme du suffrage universel. Mais les constituants avaient quand même mis une sélection, puisque c'est le parrainage vérifié par le Conseil constitutionnel, 500 signatures représentant au moins 30 départements. Et là, ce sont les élus locaux, face à leurs responsabilités, qui permettent à telle ou telle personnalité d'être candidat. Mais si aujourd'hui vous additionnez les primaires, et donc le jeu des partis, avec le coût des campagnes électorales, ça veut dire que désormais, plus personne qui n'est pas une personnalité d'un parti politique ne peut se présenter aux élections avec une chance d'être élu. C'est détestable. L'élection présidentielle, c'est un moment dans l'histoire politique d'un pays où il y a une rencontre entre un homme, le peuple et les événements. Et bien ça, on est en train de faire tout casser. Au surplus, nous n'avons plus une élection à 2 tours, nous aurons une élection à 4 tours. Les 2 tours des primaires, plus les 2 tours... Tout ça est absurde, d'autant plus que le mandat du président de la République est un mandat maintenant de 5 ans, ce qui n'est pas une bonne chose, et que dans ces 5 ans, ça veut dire que déjà, il n'y a plus utile que 4 ans, même pas de 4 ans, 3 ans et demi pour gouverner. Or, pour changer, modifier ce pays, 3 ans et demi, ce n'est pas suffisant.
Alors, donc, cette question...
Arrêtons. Hein. Je ne sais pas. Je verrai ce qu'ils proposeront. Je n'ai pas arrêté ma position et je ne veux pas pour l'instant. J'ai 2 amis, Alain Juppé, qui a d'immenses qualités et qui est un homme extrêmement compétent, qui a le sens de l'État et le sens du rassemblement, et Bruno Le Maire, qui incarne une nouvelle génération avec une volonté de parler vrai, d'agir vite, les deux. Mon rêve, ce serait qu'ils fassent tandem ensemble.
C'est noté. Cette question, je voulais poser, d'autres journalistes, évidemment, vous l'ont posée, vous la reposeront. Au registre un peu des questions qu'on vous pose régulièrement en interview, il y a celle qui concerne votre père, Michel Debré. On en parlait tout à l'heure avec cette question, cette formule du professeur Duverger. Il a été, faut-il le rappeler, garde des Sceaux de Charles de Gaulle à la fin de la 4e République. C'est lui, du coup, qui a été un des rédacteurs de la Constitution de notre 5e République. Et puis, il a été Premier ministre de Charles de Gaulle de 1959 à 62. Mais, dans la famille Debré, ce n'est pas de Michel que je veux vous faire parler maintenant, mais de Simon, si vous le permettez, votre arrière-grand-père que vous n'avez pas connu. Il a été grand rabbin de France à partir de 1888. Et il est mort en 1939, ce qui lui épargna, écrivez-vous, l'humiliation d'une déclaration au commissariat de son quartier à l'automne 1940. Vous convoquez sa mémoire à plusieurs reprises dans ce livre, et ce sont des passages très intéressants. Quel regard Jean-Louis porte-t-il sur Simon Debré ?
Écoutez, il y avait longtemps que je suis à la recherche de Simon. Je suis allé plusieurs fois dans ce petit village de Weichthofen pour essayer de retrouver la trace de cette famille. Ce qui me frappe beaucoup dans Simon, c'est 2 choses. C'est d'une part qu'il a choisi la République. Et en 1872, il a quitté l'Alsace pour ne pas être allemand parce qu'il reconnaissait à la République d'avoir donné aux Juifs un statut. Et donc, il ne pouvait pas manquer à la République. 2e chose, le fait d'être amoureux comme lui de la République a fait qu'il n'a pas vu arriver ou cru à l'antisémitisme. Quand grand rabbin Neuilly, Drumont vient faire des conférences, pour lui c'est un épiphénomène, car il n'y a pas d'antisémitisme de la République. La République ne peut pas être antisémite. Et troisième chose qui m'intéresse dans lui, c'est son regard sur le sionisme. Car vous avez vu, je le dis dans ce livre, plus loin que la première partie, qu'il est tout de suite très contre le sionisme. On dit que c'est une absurdité. La religion ne peut pas s'identifier à un État, et surtout l'État là où il est. Et donc, c'est ça qui m'a intéressé. Donc j'ai un regard... En plus, c'était un homme extrêmement cultivé et qui a compris dans le livre sur l'humour judéo-alsacien qu'il ne fallait pas qu'un certain nombre de langues qui sont liées à les traditions religieuses disparaissent, car ça disparaît avec ces langues, l'âme de ces religions. Et si je ne comprends pas, et je n'arrive pas à comprendre l'extrémisme religieux, quel qu'il soit, c'est probablement à cause de cela. Et le père de Simon, Jacques, qui est le premier élu de la famille, et qui, lors de sa premier mandat comme adjoint au maire, incite la commune de Weichthofen, près de Strasbourg, à avoir trois lieux de culte. Un lieu de culte catholique, protestant et juif. Et montrant ainsi que la République, elle, et la laïcité de la République, c'est de permettre à chacun de croire ou de ne pas croire. Et s'il croit, de croire en la religion qu'il veut. Et je trouve que les idées de Simon sont extraordinairement modernes. Et qu'on devrait y réfléchir beaucoup plus.
Et qu'elles ont une vraie résonance aujourd'hui. Deux questions pour terminer. Leur formulation est simple, leur réponse peut-être moins. Pour reprendre le titre de cette émission, qu'est-ce qui est absolument essentiel en politique, Jean-Louis Debré ?
D'être indépendant.
C'est quelque chose que vous d'être avez vous-même cultivé ?
Oui. Moi, j'avais un métier. Je n'ai eu de cesse dans ma vie de quitter ma fonction, la fonction que j'occupais avant qu'elle ne me quitte. J'ai longtemps été juge d'instruction, ça a été pour moi une période extraordinaire, la découverte d'un monde de la violence, du crime, du terrorisme. Je suis entré en politique je m'étais toujours dit, je ne peux pas vieillir en politique. Alors, la politique m'a tout apporté. J'étais ministre de l'Intérieur, président de l'Assemblée, maire d'une grande ville, député, président de l'agglomération. Mais ce qui est extraordinaire, pour moi, ma raison d'être, c'est de toujours repartir dans un autre métier. Et puis, après l'Assemblée, j'ai eu cette opportunité de la présidence du Conseil, non pas pour, comme mes prédécesseurs, gérer l'inaction, mais essayer de le transformer. J'ai quitté le Conseil constitutionnel après 9 ans. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Et quel bonheur aujourd'hui de me consacrer à l'écriture. J'écris des livres, des romans. Je suis en train de me lancer dans des scénarios de films policiers. Quel bonheur de ne pas gérer la routine et de rechercher la nouveauté.
Et dans la vie, Jean-Louis Debré, qu'est-ce qui est absolument essentiel ? Je crois qu'on l'a un petit peu compris. Mais...
S'étonner de tout et n'être jamais blasé.
Et bien on va terminer là-dessus. Merci Jean-Louis Debré.
C'est moi qui vous remercie.
L'émission touche à sa fin, je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission d'entretien culturel sur Transistor. Et d'ici là, surtout, n'oubliez pas l'essentiel.